L'autre est à Mont, cinquième chant de Maldoror, deuxième partie. Silence. Il passe un cortège funèbre à côté de vous. Inclinez la binarité de vos rotules vers la terre et entonnez un chant d'outre-tombe. Si vous considérez mes paroles plutôt comme une simple forme impérative que comme un ordre formel qui n'est pas à sa place, vous montrerez de l'esprit et du meilleur. Il est possible que vous parveniez de la sorte à réjouir extrêmement l'âme du mort qui va se reposer de la vie dans une fosse. Même le fait est, pour moi, certain. Remarquez que je ne dis pas que votre opinion ne puisse jusqu'à un certain point être contraire à la mienne. Mais ce qu'il importe avant tout, c'est de posséder des notions justes sur les bases de la morale de telle manière que chacun doive se pénétrer du principe qui commande à faire à autrui ce que l'on voudrait peut-être qu'il fût fait à soi-même. Le prêtre des religions ouvre le premier la marche, en tenant à la main un drapeau blanc, signe de la paix, et de l'autre un emblème d'or qui représente les parties de l'homme et de la femme, comme pour indiquer que ces membres charnels sont la plupart du temps, abstraction faite de toute métaphore, des instruments très dangereux entre les mains de ceux qui s'en servent quand ils les manipulent aveuglément pour des bruits divers qui se querellent entre eux au lieu d'engendrer une opportune réaction contre la passion connue qui cause presque tous nos maux. Mais au bas de son dos est attachée, artificiellement bien entendu, une queue de cheval aux crins épars qui balaie la poussière du sol. Elle signifie de prendre garde de ne pas nous ravaler par notre conduite au rang des animaux. Le cercueil connaît sa route et marche après la tunique flottante du consolateur. Les parents et les amis du défunt, par la manifestation de leur position, ont résolu de fermer la marche du cortège. Celui-ci s'avance avec majesté, comme un vaisseau qui fend la pleine mer, et ne craint pas le phénomène de l'enforcement. Car au moment auquel les tempêtes et les écueils ne se font pas remarquer par quelque chose de moins que leur inexplicable absence, et les grillons et les crapauds suivent à quelques pas la fête mortuaire. Eux aussi n'ignorent pas que leur modeste présence aux funérailles de quiconque leur sera un jour comptée. Ils s'entretiennent à voix basse dans leur pittoresque langage. Ne soyez pas assez présomptueux. Permettez-moi de vous donner ce conseil non intéressé pour croire que vous seul possédez la précieuse faculté de traduire les sentiments de votre pensée. De celui qu'ils regardèrent plus d'une fois courir à travers les prairies verdoyantes et plonger la sueur de ses membres dans les bleuâtres vagues des golfes arénacés. D'abord la vie parut lui sourire sans arrière-pensée, et magnifiquement le couronna de fleurs. Mais, puisque votre intelligence elle-même s'aperçoit ou plutôt devine qu'il s'est arrêté aux limites de l'enfance, je n'ai pas besoin, jusqu'à l'apparition d'une rétractation véritablement nécessaire, de continuer les prolégomènes de ma rigoureuse démonstration. 10 ans. Nombre exactement calqué à s'y méprendre sur celui des doigts de la main. C'est peu et c'est beaucoup. Dans le cas qui nous préoccupe cependant, je m'appuierai sur votre amour envers la vérité pour que vous prononciez avec moi sans tarder une seconde de plus que c'est peu. Et quand je réfléchis sommairement à ces ténébreux mystères par lesquels un être humain disparaît de la terre aussi facilement qu'une mouche ou une libellule, sans conserver l'espérance d'y revenir, je me surprends à couver le vif regret de ne pas probablement pouvoir vivre assez longtemps pour vous bien expliquer ce que je n'ai pas la prétention de comprendre moi-même. Mais puisqu'il est prouvé que, par un hasard extraordinaire, je n'ai pas encore perdu la vie depuis ce temps lointain où je commençais plein de terreur la phrase précédente. Je calcule mentalement qu'il ne sera pas inutile ici de construire l'aveu complet de mon impuissance radicale quand il s'agit surtout, comme à présent, de cette imposante et inabordable question. C'est, généralement parlant, une chose singulière que la tendance attractive qui nous porte à rechercher, pour ensuite les exprimer, les ressemblances et les différences que recèlent dans leur naturelle propriété les objets les plus opposés entre eux et quelquefois les moins aptes, en apparence, à se prêter à ce genre de combinaison sympathiquement curieuse et qui, ma parole d'honneur, donne gracieusement au style de l'écrivain qui se paye cette personnelle satisfaction l'impossible et inoubliable aspect d'un hibou sérieux jusqu'à l'éternité. Suivons en conséquence le courant qui nous entraîne. Le Milan Royal a des ailes proportionnellement plus longues que les buses et le vol bien plus aisé. Aussi passe-t-il sa vie dans l'air. Il ne se repose presque jamais et parcourt chaque jour des espaces immenses. Et ce grand mouvement n'est point un exercice de chasse, ni poursuite de proie, ni même de découverte, car il ne chasse pas, mais il semble que le vol soit son état naturel, sa favorite situation. L'on ne peut s'empêcher d'admirer la manière dont il l'exécute. Ses ailes longues et étroites paraissent immobiles. C'est la queue qui croit diriger toutes les évolutions, et la queue ne se trompe pas, elle agit sans cesse. Il s'élève sans effort, il s'abaisse comme s'il glissait sur un plan incliné, il semble plutôt nager que voler, il précipite sa course, il la ralentit, s'arrête, et reste comme suspendu ou fixé à la même place pendant des heures entières. L'on ne peut s'apercevoir d'aucun mouvement dans ses ailes. Vous ouvririez les yeux comme la porte d'un four, que ce serait d'autant d'inutile. Chacun a le bon sens de confesser sans difficulté, quoique avec un peu de mauvaise grâce, qu'il ne s'aperçoit pas au premier abord du rapport si lointain qu'il soit que je signale entre la beauté du vol du Milan Royal et celle de la figure de l'enfant s'élevant doucement au-dessus du cercueil découvert comme un nénuphar qui perce la surface des eaux. Et voilà précisément en quoi consiste l'impardonnable faute qu'entraîne l'inamovible situation d'un manque de repentir, touchant l'ignorance volontaire dans laquelle on croupit. Ce rapport de calme majesté entre les deux termes de ma narquoise comparaison n'est déjà que trop commun et d'un symbole assez compréhensible pour que je m'étonne davantage de ce qu'il peut avoir comme seule excuse que ce même caractère de vulgarité qui fait appeler à tout objet ou spectacle qui en est atteint un profond sentiment d'indifférence injuste, comme si ce qui se voit quotidiennement n'en devait pas moins réveiller l'attention de notre admiration. Arrivé à l'entrée du cimetière, le cortège s'empresse de s'arrêter. Son intention n'est pas d'aller plus loin. Le fossoyeur achève le creusement de la fosse. L'on y dépose le cercueil avec toutes les précautions prises en pareil cas. Quelques pelletées de terre inattendues viennent recouvrir le corps de l'enfant. Le prêtre des religions, au milieu de l'assistance émue, prononce quelques paroles pour bien enterrer le mort, davantage dans l'imagination des assistants. Il dit qu'il s'étonne beaucoup de ce que l'on verse ainsi tant de pleurs pour un acte d'une telle insignifiance. Oui, textuel, mais il craint de ne pas qualifier suffisamment ce qu'il prétend lui être un incontestable bonheur. S'il avait cru que la mort est aussi peu sympathique dans sa naïveté, il aurait renoncé à son mandat pour ne pas augmenter la légitime douleur des nombreux parents et amis du défunt. Mais une secrète voix l'avertit de leur donner quelques consolations, qui ne seront pas inutiles, ne fût-ce que celles qui feraient entrevoir l'espoir d'une prochaine rencontre dans les cieux entre celui qui mourut et ceux qui survécurent. Maldoror s'enfuyait au grand galop en paraissant diriger sa course vers les murailles du cimetière. Les sabots de son coursier élevaient autour de son maître une fausse couronne de poussière épaisse. Vous autres, vous ne pouvez savoir le nom de ce cavalier, mais moi, je le sais. Il s'approchait de plus en plus. Sa figure de platine commençait à devenir perceptible, quoique le bas en fût entièrement enveloppé d'un manteau que le lecteur s'est gardé et doté de sa mémoire, et qui ne laissait apercevoir que les yeux. Au milieu de son discours, le prêtre des religions devient subitement pâle, car son oreille reconnaît le galop irrégulier de ce célèbre cheval blanc qui n'abandonna jamais son maître. « Oui, ajouta-t-il de nouveau, ma confiance est grande dans cette prochaine rencontre. Alors on comprendra mieux qu'auparavant quel sens il fallait attacher à la séparation temporaire de l'âme et du corps. Tel qui croit vivre sur cette terre se berne d'une illusion dont il importerait d'accélérer l'évaporation. » Le bruit du galop s'accroissait de plus en plus, et comme le cavalier, étreignant la ligne d'horizon, paraissait en vue dans le champ d'optique qu'embrassait le portail du cimetière, rapide comme un cyclone giratoire, le prêtre des religions plus gravement reprit « Vous ne semblez pas vous douter que celui-ci, que la maladie força de ne connaître que les premières phases de la vie, et que la fosse vient de recevoir dans son sein, est l'indubitable vivant. Mais sachez au moins que celui-là, dont vous apercevez la silhouette équivoque, emporté par un cheval nerveux, et sur lequel je vous conseille de fixer le plus tôt possible les yeux, car il n'est plus qu'un point, et va bientôt disparaître dans la brouillère, quoiqu'il ait beaucoup vécu, est le seul véritable mort. Chaque nuit, à l'heure où le sommeil est parvenu à son plus grand degré d'intensité, une vieille araignée de la grande espèce sort lentement sa tête d'un trou placé sur le sol à l'une des intersections des angles de la chambre. Elle écoute attentivement si quelque bruissement remue encore ses mandibules dans l'atmosphère. Vu sa conformation d'insecte, elle ne peut pas faire moins. Si elle prétend augmenter de brillantes personnifications les trésors de la littérature, que d'attribuer des mandibules au bruissement. Et quand elle s'est assurée que le silence règne aux alentours, elle rentre successivement et, des profondeurs de son nid, sans le secours de la méditation, les diverses parties de son corps et s'avance à pas comptés vers ma couche. Chose remarquable! Moi qui fais reculer le sommeil et le cauchemar, je me sens paralysé dans la totalité de mon corps quand elle grimpe le long des pieds d'ébène de mon lit de satin. Elle m'étreint la gorge avec les pattes et me suce le sang avec son ventre. Tout simplement, combien de litres d'une liqueur pourprée, dont vous n'ignorez pas le nom, n'a-t-elle pas bu depuis qu'elle accomplit le même manège avec une persistance digne d'une meilleure cause? Je ne sais pas ce que je lui ai fait pour qu'elle se conduise de la sorte à mon égard. Lui ai-je broyé une patte par inattention? Lui ai-je enlevé ses petits? Ces deux hypothèses, sujettes à caution, ne sont pas capables de soutenir un sérieux examen. Elles n'ont même pas de la peine à provoquer un haussement dans mes épaules et un sourire sur mes lèvres, quoique l'on ne doive se moquer de personne. Prends garde à toi, tarentule noire, si ta conduite n'a pas pour excuse un irréfutable syllogisme, une nuit je me réveillerai en sursaut, par un dernier effort de ma volonté agonisante, je romprai le charme avec lequel tu retiens mes membres dans l'immobilité, Je t'écraserai entre les os de mes doigts comme un morceau de matière mollasse. Cependant, je me rappelle vaguement que je t'ai donné la permission de laisser tes pattes grimper sur l'éclosion de la poitrine et de là jusqu'à la peau qui recouvre mon visage, et que par conséquent, je n'ai pas le droit de te contraindre. Oh, qui démêlera mes souvenirs confus? Oh, je lui donne pour récompense ce qui reste de mon sang. En comptant la dernière goutte inclusivement, il y en a pour remplir au moins la moitié d'une coupe d'orgie. Il parle et il ne cesse de se déshabiller. Il appuie une jambe sur le matelas et de l'autre, pressant le parquet de saphir afin de s'enlever, il se trouve étendu dans une position horizontale. Il a résolu de ne pas fermer les yeux afin d'atteindre son ennemi de pied ferme. Mais chaque fois, ne prend-il pas la même résolution? Et n'est-elle pas toujours détruite par l'inexplicable image de sa promesse fatale? Il ne dit plus rien et se résigne avec douleur, car pour lui, le serment est sacré. Il s'enveloppe majestueusement dans les replis de la soie, dédaigne d'entrelacer les glands d'or de ses rideaux, et appuyant les boucles ondulées de ses longs cheveux noirs sur les franges du coussin de velours, il tâte avec la main la large blessure de son cou, dans laquelle la tarentule a pris l'habitude de se loger comme dans un deuxième nid, tandis que son visage respire la satisfaction. Il espère que cette nuit actuelle, espérée avec lui, verra la dernière représentation de la succion immense. Car son unique vœu serait que le bourreau en finit avec son existence. La mort, et il sera content. Regardez cette vieille araignée de la grande espèce qui sort lentement sa tête d'un trou placé sur le sol à l'une des intersections des angles de la chambre. Ah, mais nous ne sommes plus dans la narration. Elle écoute attentivement si quelque bruissement remue encore ses mandibules dans l'atmosphère. Hélas, nous sommes maintenant arrivés dans le réel. Quant à ce qui regarde la tarentule, et quoi que l'on pourrait mettre un point d'exclamation à la fin de chaque phrase, ce n'est peut-être pas une raison pour s'en dispenser. Elle s'est assurée que le silence règne aux alentours. La voilà qui retire successivement des profondeurs de son nid, sans le secours de la méditation, les diverses parties de son corps et s'avance à pas comptés vers la couche de l'homme solitaire. Un instant, elle s'arrête, mais il est court ce moment d'hésitation. Elle se dit qu'il n'est pas temps encore de cesser de torturer et qu'il faut auparavant donner aux condamnés les plausibles raisons qui déterminèrent la perpétualité du supplice. Elle a grimpé à côté de l'oreille de l'endormi et si vous voulez ne pas perdre une seule parole de ce qu'elle va dire, faites abstraction des occupations étrangères qui obstruent le portique de votre esprit. Et soyez au moins reconnaissant de l'intérêt que je vous porte en faisant insister votre présence aux scènes théâtrales qui me paraissent dignes d'exciter une véritable attention de votre part. Car qui m'empêcherait de garder pour moi, seul, les événements que je raconte? Réveille-toi, flamme amoureuse des anciens jours, squelette décharné. Le temps est venu d'arrêter la main de la justice. Nous ne te ferons pas attendre longtemps l'explication que tu souhaites. Tu nous écoutes, n'est-ce pas? Mais ne remue pas les membres. Tu es encore aujourd'hui sous notre magnétique pouvoir et l'atonie encéphalique persiste. C'est pour la dernière fois. Quelle impression la figure d'Elsener fait-elle dans ton imagination? Ah, tu l'as oubliée. Et ce Réginald dans la démarche fière? As-tu gravé ses traits dans ton cerveau fidèle? Regarde-le caché dans les replis des rideaux. sa bouche est penchée vers ton front. Mais il n'ose te parler, car il est plus timide que moi. Quand je vais te raconter un épisode de ta jeunesse et te remettre dans le chemin de ta mémoire, il y avait longtemps que l'araignée avait ouvert son ventre. Tous étaient élancés deux adolescents à la robe bleue, chacun un glaive flamboyant à la main, et qui avait pris place aux côtés du lit comme pour garder désormais le sanctuaire du sommeil. Celui-ci, qui n'a pas encore cessé de te regarder, car il t'aima beaucoup, fut le premier de nous deux auquel tu donnas ton amour. Mais tu le fis souvent souffrir par les brusqueries de ton caractère. Lui ne cessait d'employer ses efforts à n'engendrer de ta part aucun sujet de plainte contre lui. Mais un ange n'aurait pas réussi. Tu lui demandais un jour s'il voulait aller se baigner avec toi sur le rivage de la mer. Tous les deux, comme deux cygnes, vous vous élançâtes en même temps d'une roche à pic. Plongeurs éminents, vous glissâtes dans la masse aqueuse, les bras étendus entre la tête et se réunissant aux mains. Et pendant quelques minutes, vous nageâtes entre deux courants. Vous reparûtes à une grande distance, vos cheveux entremêlés entre eux et ruisselant du liquide salé. Mais quel mystère s'était donc passé sous l'eau pour qu'une longue trace de sang s'aperçût à travers les vagues. Revenu à la surface, toi, tu continuais de nager, tu faisais semblant de ne pas remarquer la faiblesse croissante de ton compagnon. Il perdait rapidement ses forces et tu n'en poussais pas moins tes larges brassées vers l'horizon brumeux qui s'estompait devant toi. Le blessé poussa des cris de détresse et tu fis le sourd. Réginald frappa trois fois l'écho des syllabes de ton nom, et trois fois tu répondis par un cri de volupté. Il se trouvait trop loin du rivage pour revenir, et s'efforçait en vain de suivre les sillons de ton passage afin de t'atteindre et reposer un instant sa main sur ton épaule. La chasse négative se prolongea pendant une heure, lui perdant ses forces et toi sentant croître les tiennes. Et désespérant d'égaler la vitesse, il fit une courte prière au Seigneur pour lui recommander son âme, se plaça sur le dos comme quand on fait la planche, de telle manière qu'on apercevait le cœur battre violemment sous sa poitrine, et attendit que la mort arrivât afin de ne plus atteindre. En cet instant, les membres vigoureux étaient à perte de vue et s'éloignaient encore, rapides comme une sonde qu'on laisse filer. Une barque qui revenait de placer ses filets au large passa dans ces parages. Les pêcheurs prirent Réginald pour un naufragé et le halèrent évanoui dans leur embarcation. On constata la présence d'une blessure au flanc droit. Chacun de ces matelots expérimentés émit l'opinion qu'aucune pointe d'écueil ou fragment de rocher n'était susceptible de percer un trou si microscopique et en même temps si profond. Une arme tranchante, comme le serait un stylet des plus aigus, pouvait seule s'arroger les droits à la paternité d'une si fine blessure. Et lui ne voulut jamais raconter les diverses phases du plongeon à travers les entrailles des flots, et ce secret, il l'a gardé jusqu'à présent. Des larmes coulent maintenant sur ses joues un peu décolorées et tombent sur tes draps. Le souvenir est quelquefois plus amer que la chose. Mais moi, je ne ressentirai pas de la pitié, ce serait te montrer trop d'estime. Ne roule pas dans leur orbite ces yeux furibonds. Reste calme, plutôt. Tu sais que tu ne peux pas bouger. D'ailleurs, je n'ai pas terminé mon récit. Relève ton glaive, Réginald, et n'oublie pas si facilement la vengeance. Qui sait, peut-être un jour, elle viendrait te faire des reproches. et plus tard tu considères mort, dont l'existence devait être éphémère. Tu résolus de racheter ta faute par le choix d'un autre ami afin de le bénir et de l'honorer. Par ce moyen expiatoire, tu effaçais les taches du passé et tu faisais retomber sur celui qui devint la deuxième victime la sympathie qu'il n'avait pas su montrer à l'autre. Vain espoir! Le caractère ne se modifie pas d'un jour à l'autre, et ta volonté resta pareille à elle-même. Et moi, Elseneur, je te vis pour la première fois, et dès ce moment, je ne pus t'oublier. Nous nous regardâmes pendant quelques instants, et tu te mis à sourire. Je baissai les yeux parce que je vis dans les tiens une flamme surnaturelle. Je me demandais si, à l'aide d'une nuit obscure, tu t'étais laissé choir secrètement jusqu'à nous de la surface de quelque étoile, car, je le confesse aujourd'hui, qu'il n'est pas nécessaire de feindre. Tu ne ressemblais pas au marcassin de l'humanité, mais une auréole de rayons étincelants enveloppait la périphérie de ton front. J'aurais désiré lier des relations intimes avec toi. Ma présence n'osait approcher devant la frappante nouveauté de cette étrange noblesse. Une tenace terreur rôdait autour de moi. Et pourquoi n'ai-je pas écouté ces avertissements de la conscience? Pressentiment fondé. Et remarquant mon hésitation, tu rougis à ton tour et tu avanças le bras. Je mis courageusement ma main dans la tienne, et après cette action, je me sentis plus fort, et désormais un souffle de ton intelligence était passé dans moi. Les cheveux au vent et respirant les haleines des brises, nous marchâmes quelques instants devant nous, à travers des bosquets touffus de lentisques, de jasmin, de grenadier et d'oranger, dont les senteurs nous enivraient. Un sanglier frôla nos habits à toute course, et une larme tomba de son œil quand il me vit avec toi. Je ne m'expliquais pas sa conduite. Nous arrivâmes à la tombée de la nuit devant les portes d'une cité populeuse. Les profils des dômes, les flèches des minarets et les boules de marbre des belvédères découpaient vigoureusement leur dentelure à travers les ténèbres sur le bleu intense du ciel. Mais tu ne voulus pas te reposer en cet endroit, quoique nous fussions accablés de fatigue. Nous longeâmes le bas des fortifications externes comme des chacals nocturnes. Nous évitâmes la rencontre des sentinelles aux aguets, et nous parvînmes à nous éloigner, par la porte opposée, de cette réunion solennelle d'animaux raisonnables, civilisés comme des castors. Le vol de la fulgore porte-lanterne, le craquement des herbes sèches, les hurlements intermittents de quelques loups lointains, accompagner l'obscurité de notre marche incertaine à travers la campagne. Quels étaient donc les valables motifs pour fuir les ruses humaines? Je me posais cette question avec un certain trouble. Mes jambes, d'ailleurs, commençaient à me refuser à un service trop longtemps prolongé. Nous atteignîmes enfin la lisière d'un bois épais, dont les arbres étaient entrelacés entre eux par un fouillis de hautes lianes inextricables, de plantes parasites et de cactus à épines monstrueuses. Tu t'arrêtas devant un bouleau. Tu me dis de m'agenouiller pour me préparer à mourir. Tu m'accordais un quart d'heure pour sortir de cette terre. Quelques regards furtifs pendant notre longue course, jetés à la dérobée sur moi, quand je ne t'observais pas, certains gestes dont j'avais remarqué l'irrégularité de mesure et de mouvement se présentèrent aussitôt à ma mémoire comme les pages ouvertes d'un livre. Mes soupçons étaient confirmés. trop faible pour lutter contre toi, tu me renversas à terre comme l'ouragan abat la feuille du tremble. Un de tes genoux sur ma poitrine et l'autre appuyé sur l'herbe humide, tandis qu'une de tes mains arrêtait la binarité de mes bras dans son étau, je vis l'autre sortir un couteau de la gaine appendue à ta ceinture. Ma résistance était presque nulle et je fermais les yeux. Les trémiments d'un troupeau de bœufs s'entendirent à quelque distance, apportés par le vent. Ils s'avançaient comme une locomotive harcelée par le bâton d'un pâtre et les mâchoires d'un chien. Il n'y avait pas de temps à perdre, c'est ce que tu compris. Craignant de ne pas parvenir à tes fins, car l'approche d'un secours inespéré avait doublé ma puissance musculaire, et t'apercevant que tu ne pouvais rendre immobile qu'un de mes bras à la fois, tu te contentes, par un rapide mouvement imprimé à la lame d'acier, de me couper le poignet droit. Le morceau exactement détaché tomba par terre. Et tu pris la fuite pendant que j'étais étourdi par la douleur. Oh, je ne te raconterai pas comment le pâtre vint à mon secours, ni combien de temps devint nécessaire à ma guérison. Qu'il te suffise de savoir que cette trahison à laquelle je ne m'attendais pas me donna l'envie de rechercher la mort. Et je portais ma présence dans les combats afin d'offrir ma poitrine au corps. J'acquis de la gloire dans les champs de bataille. Mon nom était devenu redoutable même aux plus intrépides, tant mon artificielle main de fer répandait le carnage et la destruction dans les rangs ennemis. Cependant, un jour que les obus tournaient beaucoup plus fort qu'à l'ordinaire et que les escadrons enlevés de leur base tourbillonnaient comme des pailles sous l'influence du cyclone de la mort, un cavalier à la démarche hardie s'avança devant moi pour me disputer la palme de la victoire. Les deux armées s'arrêtèrent immobiles pour nous contempler en silence. Nous combattîmes longtemps, criblés de blessures et les casaques brisées, et d'un commun accord, nous cessâmes la lutte afin de nous reposer et la reprendre ensuite avec plus d'énergie. Plein d'admiration pour son adversaire, chacun lève sa propre visière. Elseneur, Réginald! Telles furent les simples paroles que nos gorges haletantes prononcèrent en même temps. Ce dernier, tombé dans le désespoir d'une tristesse inconsolable, avait pris comme moi la carrière des armes, et les balles l'avaient épargné. Dans quelles circonstances nous nous retrouvions? Mais ton nom ne fut pas prononcé. Lui et moi, nous nous jurâmes une amitié éternelle, mais certes différente des deux premières dans lesquelles tu avais été le principal acteur. Un archange, descendu du ciel et messager du Seigneur, nous ordonna de nous changer en une araignée unique et de venir chaque nuit te sucer la gorge jusqu'à ce qu'un commandement venu d'en haut arrêta le cours du châtiment. Et pendant près de 10 ans, nous avons hanté ta couche. Dès aujourd'hui, tu es délivré de notre persécution. La promesse vague dont tu parlais, ce n'est pas à nous que tu la fis, mais bien à l'être qui est plus fort que toi. Tu comprenais toi-même qu'il valait mieux se soumettre à ce décret irrévocable. Réveille-toi, Maldoror. Le charme magnétique qui a pesé sur ton système cérébrospinal pendant les nuits de 2 lustres s'évapore. Il se réveille comme il lui a été ordonné et voit 2 formes célestes disparaître dans les airs, les bras entrelacés. Oh, il n'essaye pas de se rendormir. Il sort lentement, l'un après l'autre, ses membres hors de sa couche. Il va réchauffer sa peau glacée aux tisons allumés de la cheminée gothique. Sa chemise seule recouvre son corps. Il cherche des yeux la carafe de cristal afin d'humecter son palais desséché. Il ouvre les contrevents de la fenêtre. Il s'appuie sur le rebord. Il contemple la lune qui verse sur sa poitrine un cône de rayons extatiques où palpitent comme des phalènes des atomes d'argent d'une douceur ineffable. Il attend que le crépuscule du matin vienne apporter, par le changement de décor, un dérisoire soulagement à son cœur bouleversé. Fin du cinquième chant.